Radio Starbit.
Morning edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
La violence et la persévérance avec laquelle ils ont détruit les lois de la justice, c'est ça qu'on n'a jamais accepté ici, la corruption.
La Roumanie se bat, essaye de se battre pour essayer de lutter contre une corruption endémique. Et c'est bien à cause de cette corruption, d'ailleurs, entre autres, que la présidence de l'Union européenne par Bucarest depuis le 1er janvier inquiète les autres pays européens. On vous explique tout ça dans l'escale reportage d'un jour dans le monde grâce à Eric Bigala, Sous les radars et Amélie Perrier. Vous l'avez entendu en Grande-Bretagne, en Autriche, en Afrique du Sud. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier qui a vu In My Room de l'allemand Ulrich Köhler. Que feriez-vous si vous vous réveilliez en constatant que le reste de l'humanité a disparu? 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Donald Trump après son discours. Donald Trump qui est finalement beaucoup plus droit dans ses bottes que peuvent l'être les démocrates. On verra ça dans un instant. Mais avant, nous allons à Malte et aussi à Calais et Douvres, sur une toute petite embarcation d'ailleurs. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Depuis quelques temps, c'est assez récent, une nouvelle filière de migration s'est ouverte. Elle traverse la Manche. Ça fait 3 mois que le nombre de candidats au refuge tentant de rallier l'Angleterre par bateau a explosé. Il y avait peut-être entre 20 et 50 tentatives allées en 2016. Il y en a eu presque 800 en 2018. La plupart d'ailleurs depuis la fin du mois d'octobre. Bonsoir François Gémen.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège. Vous êtes aussi à l'Université Versailles-Saint-Quentin, spécialiste des flux migratoires. On va y venir sur cette nouvelle route, mais finalement d'ailleurs une chose en entraîne une autre. Je voudrais d'abord quand même qu'on aille faire un aller-retour du côté de Malte avec cet accord qui a finalement été trouvé pour 49 migrants. Répartition entre la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Irlande, la Roumanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie. Mais qu'est-ce que ça a été difficile? C'est à chaque fois plus difficile de trouver un accord de ce genre pour 49 personnes.
Il a fallu effectivement quasiment 3 semaines, alors que ces personnes étaient en détresse en plein hiver sur des bateaux, pour des comptes d'apothicaire. Tel pays va en accueillir 15, l'Italie, le Luxembourg va en accueillir 6. Il faut se rendre compte de ces nombres. Et ça fait maintenant quasiment un an que le Conseil européen s'était réuni en urgence pour essayer de trouver une solution pérenne à ces crises en Méditerranée. On avait à l'époque acté la construction de plateformes humanitaires de débarquement qui n'ont jamais vu le jour. Encore une fois, l'Union européenne ne parvient pas à trouver une solution à ces crises, ne parvient pas à construire un projet politique en matière d'immigration et d'asile.
Mais au fond, la question qu'on se pose quand on voit ça, et même avec ce cas par cas, on voit que c'est tellement difficile, est-ce qu'il faut vraiment imposer un partage? On sait bien que la solution la plus juste pour chacun, c'est forcément celle-là, mais est-ce qu'il faut s'acharner à essayer d'imposer un partage quand on sent que ça ne marche pas, essayer de trouver une autre voie, est-ce qu'il y en a une autre?
Le problème, c'est que les pays du sud de la Méditerranée, Malte dans ce cas-ci, d'autres fois l'Italie, peut-être demain l'Espagne ou la Grèce, ont chaque fois peur d'accueillir sur leur territoire des migrants, craignant de créer un précédent et que cette solution ne devienne la solution utilisée à l'avenir. Et donc à chaque fois, ils réclament une solution européenne, à chaque fois, c'est un marchandage un peu sordide. La solution pour laquelle je plaide, c'est pour que l'on crée une agence européenne de l'asile qui centralise les demandes d'asile et répartisse ensuite les demandeurs d'asile dans les différents pays. Alors bien entendu, il n'y a pas de volonté politique pour le moment, et de moins en moins au fur et à mesure que les populistes gagnent du terrain, mais je pense qu'il faut la sortir de contraintes. On pourrait par exemple imaginer de conditionner la participation à l'espace Schengen, donc à la libre circulation au sein de l'Union européenne, à la participation à cette agence.
On ne va pas céder aux pressions et aux menaces de l'Europe ou des ONG. C'est un signe de faiblesse que les Italiens ne méritent pas. C'est le ministre de l'Intérieur italien qui parle. Au fond, il a gagné, lui et d'autres d'ailleurs. Pour l'instant, cette partie, c'est eux qui la gagnent, parce que au fond, pour décourager les migrants, il n'y a rien de mieux, ou en tout cas les envoyer sur d'autres routes.
C'est-à-dire que la faiblesse et l'attentisme des gouvernements qui prônaient une solution européenne, c'est-à-dire le gouvernement français, mais aussi le gouvernement allemand ou le gouvernement espagnol, fait le jeu des populistes, bien entendu, qui, eux, ont des propositions très concrètes à avancer et qui avancent pas à pas, jour après jour. C'est le cas de l'Italie, de l'Autriche, de la Hongrie. Aujourd'hui, on voit bien qu'en Europe, ce sont les populistes qui ont la main sur ce dossier et qui imposent leur agenda et leur cadre de pensée.
Est-ce qu'ils le savent? Jusqu'à quel point pensez-vous qu'ils le savent, les gens qui tentent ces routes-là? Et c'est bien la raison pour laquelle les cheminements sont en train de changer. La première entrée désormais, c'est l'Espagne. On va parler dans un instant de la Manche, parce qu'il commence à se passer des choses importantes du côté de la Manche. Donc, est-ce que c'est ça la raison du changement, on va dire, de route, ou est-ce que c'est simplement que finalement, sur la première route méditerranéenne, la Libye, la Turquie, tout ça a réussi à englober tous ces ces migrants-là. Et c'est une autre population qu'on voit arriver désormais vers une autre route.
Il y a un peu des deux. Il y a effectivement le fait que les flux migratoires changent, et donc ce sont d'autres populations qui prennent la mer. Et puis il y a aussi l'influence des décisions politiques. Lorsque l'Italie décide de fermer ses ports, on voit effectivement que les flux migratoires se déportent vers l'Espagne. Il y a eu en 2018 113 000 traversées la Méditerranée, 55 000 sont arrivés en Espagne. C'est aujourd'hui l'Espagne qui est devenue la principale porte d'entrée de l'Union européenne, avec quasiment la moitié des arrivées, sauf que le gouvernement espagnol n'en fait pas une crise, contrairement au gouvernement italien, qui lui n'a accueilli que 23 000 personnes en 2018, contre 119 000 l'année dernière.
N'en fait pas une crise, mais on en a parlé hier ici même, l'Andalousie désormais a des élus qui appartiennent à Vox et qui appartiennent à l'extrême droite, et l'un des arguments était bien celui-là d'ailleurs, puisque la première entrée derrière Gibraltar, le plus souvent c'est l'Andalousie.
Il faut bien comprendre que, faute de solution européenne sur cette question, les populistes vont gagner du terrain chaque jour.
Faut rappeler quand même quelques chiffres, François Gémen. On est au chiffre le plus bas en ce moment. On est à deux fois moins, je crois, que 2015. Est-ce que c'est un chiffre que vous diriez aussi? Le plus bas, en tout cas, depuis 2014.
On est quasiment à six fois moins par rapport à 2016. On est revenu au chiffre, je dirais, de la normalité, c'est-à-dire de 2011-2012, avant que l'on parle de la crise des réfugiés.
Alors, les routes bougent, vous l'avez dit, et il y a un regard aujourd'hui vers la route de la Manche, vers le fait de traverser la Manche. Je citais des chiffres tout à l'heure autour de 800 comptabilisés l'année dernière, quand il y en avait quasiment peu avant. D'abord, pardon de le dire comme ça, mais pourquoi si peu avant, au fond? Parce que c'est pas le danger, en général, qui arrête ces migrants. Pourquoi est-ce qu'on a l'air de découvrir cette route de la Manche aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est tellement une autoroute que c'est super dangereux?
C'est-à-dire que cette route a toujours existé, simplement depuis quelques années, effectivement, la France et le Royaume-Uni ont renforcé les contrôles à l'entrée du tunnel sous la Manche, et donc il est devenu de plus en plus difficile pour les migrants de sauter dans des camions et de passer en Angleterre via des camions. Et donc, comme ils sont prêts à tout pour arriver en Angleterre, ils tentent des options plus dangereuses, et donc en particulier la traversée de la Manche sur des tout petits canots, sur de toutes petites embarcations. On a même parfois parlé de jet ski, c'est dire la taille des embarcations. Et effectivement, c'est extrêmement dangereux, puisque c'est une des autoroutes maritimes les plus fréquentées du monde.
Un quart du trafic mondial. Est-ce qu'il y a une filière qui est en train de s'organiser? On dit que ce sont beaucoup des Iraniens, par exemple. Est-ce que tout ce qu'on a vu s'installer, par exemple, dans la jungle de Calais, qui consiste à essayer de monter sur des camions, vous le disiez, c'est de plus en plus difficile? Est-ce que cette forme d'organisation mafieuse pour essayer de faire passer les gens, on voit qu'elle commence à s'organiser dans ces zones-là ou pas?
Elle a toujours existé en réalité, simplement ses moyens sont en train de changer. Pourquoi est-ce qu'il y a pour le moment une forme de recrudescence de traversée par la Manche? Simplement à cause du Brexit, les passeurs disent pour le moment aux migrants, attention, le Brexit arrive, après le Brexit ça sera plus difficile de passer, et donc si vous voulez tenter votre chance, c'est maintenant ou jamais. Or il faut savoir que contrairement à la traversée via des camions, où là on se fait arrêter par la police, on se fait renvoyer, puis on recommence deux ou trois jours après, quand on embarque dans la Manche, eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patrouille pour le moment qui vont vous intercepter. C'est-à-dire que si vous arrivez vivant,
qu'est-ce qui se passe quand on arrive à Douvres, par exemple? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à Douvres, du coup, quand on a fait le passage?
Soit on demande l'asile au Royaume-Uni. Si on n'a pas été enregistré avant, lors de son trajet européen, soit on disparaît dans la nature et on devient sans papier.
Mais aucune chance qu'on nous fasse faire machine arrière, c'est ça l'idée en fait. Et aucune chance qu'on fasse machine arrière.
Il y a bien sûr des chances si on se fait intercepter par la police que l'on se fasse renvoyer, mais si l'on dépose une demande d'asile à ce moment-là, pendant la durée de la demande d'asile, si on n'a pas été enregistré ailleurs dans l'Union européenne, à ce moment-là, on ne peut pas se faire renvoyer, non.
Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Je voudrais vous poser la question à vous aussi, Antoine. Qu'est-ce qu'on dit chez vous de ce nouvel itinéraire maritime, de ces arrivées, effectivement, qui changent un petit peu la donne, finalement, de votre côté de la Manche?
Oui, absolument. On en parle d'ailleurs beaucoup ces derniers jours. C'est l'un des ressorts, l'immigration ici qui a déclenché le Brexit, et évidemment cette volonté de fermer les frontières avec le Brexit qui arrive, ça cristallise un petit peu les opinions autour de ces migrants qui traversent la Manche. Résultat, du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur affirme que la question est prise très au sérieux. Le Royaume-Uni a d'ailleurs envoyé en fin de semaine dernière un navire de l'armée sur les côtes françaises pour renforcer la surveillance, en annonçant d'ailleurs la couleur. Il s'agit, dit le ministre, d'arrêter les migrants dans les eaux françaises pour les renvoyer renvoyer, comme le prévoient les textes de loi, sur les terres les plus proches, donc en France. Alors évidemment, à gauche, du côté des ONG aussi, on dénonce une réaction injuste, indécente. Le député conservateur de la circonscription de Douvres, lui, demande de renforcer la surveillance aérienne. Et puis, du côté de l'extrême droite, c'est toujours le même discours. Les experts qui travaillent sur l'immigration, rappellent les représentants du UKIP, avaient prévenu il y a 2 ans, notamment ceux qui travaillent sur l'immigration clandestine en Sicile. Ils avaient dit, prenez vos précautions, attention, les arrivées par bateau vont se multiplier. Et évidemment, l'extrême droite utilise l'argument ce soir.
Et alors Antoine, on citait les chiffres tout à l'heure, hein, 800 traversées pour l'année 2018, 250 pour le mois de décembre seulement, c'est beaucoup. Il y a eu même des passages de la nuit de Noël, en fait, parce qu'on pensait effectivement à ce moment-là, ce qui était d'ailleurs assez juste, que les contrôles seraient moins importants. Est-ce qu'on a une idée, on parlait tout à l'heure de jet ski même, c'est quoi les types d'embarcations, les réseaux de passeurs qui se mettent en place, y compris de votre côté à vous de la Manche, en fait?
Oui, il y a des réseaux qui se mettent en place, qui existent déjà d'ailleurs depuis plusieurs années, on le disait, mais qui se sont organisés notamment en fonction des nationalités. Les Iraniens, les Kurdes, les Albanais qui ont été condamnés il y a quelques semaines, ce sont eux qui avaient armé des Zodiacs et qui cherchaient à acheter une flotte de jet ski. Il y a aussi des Afghans, comme ce passeur qui a été filmé en caméra cachée par le Sun. La vidéo a été publiée ce matin. Écoutez le témoignage. L'homme qu'on voit s'appelle Anan, il a 28 ans et il se vante d'avoir fait passer 300 personnes sur des hors-bord pour 6 500 € chacun ou sur des Zodiacs pour 2 800 €. On embarque, dit-il, à une centaine de kilomètres de Calais. On débarque à Folkestone. C'est beaucoup plus discret. La police, dit-il, ne peut pas nous attraper. Pas d'inquiétude. Et puis Anan propose même de fournir des hommes d'équipage si vous venez avec votre propre bateau. Tout semble très organisé.
Une dernière chose, Antoine, on en parlait à l'instant avec François Gémen. Qu'est-ce qu'on dit de votre côté là aussi sur l'influence que le Brexit et les négociations du Brexit aujourd'hui et le cafouillage surtout autour du Brexit, qu'est-ce qu'on dit des conséquences que ça peut avoir? Est-ce qu'on profite effectivement du cafouillage actuel pour se dire c'est le moment ou jamais?
Absolument, en tout cas c'est ce que disent des sources proches des passeurs, notamment les Kurdes. Il y a une volonté d'accélérer le mouvement avant une éventuelle fermeture des frontières le 29 mars prochain. En fait, ça se réfléchit d'un point de vue très pragmatique. Les procédures douanières au port de Douvres vont ralentir fatalement le passage des camions. Il y aura des retards, des embouteillages. On a déjà calculé que 2 minutes de contrôle de papier, c'est 30 kilomètres de bouchons sur les routes du Kent. Ce sera donc peut-être plus facile pour les réfugiés de monter à bord des camions à l'embarquement, mais ce sera beaucoup moins facile de passer inaperçu avec les chiens, avec les équipes cynophiles qui vont patrouiller au milieu des véhicules arrêtés. Et du coup, effectivement, il y a une accélération des migrants.
Merci beaucoup Antoine Gignot. François Gémen, est-ce que dans le cadre du Brexit et quand effectivement à la fin du mois de mars tout ça est censé avoir pris un certain ordre, allez savoir, est-ce qu'on reverra les accords du Touquet par exemple? Est-ce qu'il faudra retravailler sur ces questions-là?
C'est très possible et à mon avis il le faudrait. Une des raisons pour laquelle on n'avait pas rouvert à négociation ces accords du Touquet, c'était pour ne pas provoquer une crise européenne, notamment au moment où on allait voter pour le Brexit, au moment où on le négociait. Une fois le Royaume-Uni hors de l'Union européenne, je ne vois rien qui retiendrait une renégociation de ces accords du Touquet qui me paraissent aujourd'hui déséquilibrés et assez injustes, notamment pour
qui disent que nous avons la responsabilité, nous, grosso modo, pour dire les choses très simplement, nous avons, nous, la responsabilité de faire en sorte que les traversées ne puissent pas se faire.
Exactement, c'est-à-dire que l'Angleterre, en quelque sorte, sous-traite sa politique migratoire à la France, de la même manière que l'Union européenne la sous-traite à la Turquie ou à la Libye. Et donc, ce qu'on reproche à l'Angleterre, on le fait avec d'autres pays tiers.
Et une dernière chose, puisqu'on est dans ces histoires de Brexit, est-ce qu'il peut y avoir une question autour de l'Irlande et la confusion autour de la frontière irlandaise? Est-ce que c'est un goulet dans lequel on peut s'engouffrer aujourd'hui lorsqu'on est un migrant?
L'avenir ne le dira, mais c'est certain qu'aujourd'hui, ceux qui tentent la traversée, en tout cas au cours du mois de décembre, étaient plutôt des Iraniens. On soupçonne que ces Iraniens soient venus en Europe via une suspension de visa que la Serbie avait décidé en août 2017. Et à ce moment-là, 15 000 Iraniens avaient effectivement migré vers la Serbie sans visa. On soupçonne qu'ils puissent provenir de ce groupe. Dernier élément sur le Brexit, il faut rappeler que 52% des électeurs qui avaient voté pour le Brexit l'avaient fait en premier lieu pour des raisons liées à l'immigration. On voit donc bien que c'est aussi une crise qui arrange le gouvernement britannique pour le moment à l'approche du vote crucial sur le Brexit qui aura lieu à la Chambre des communes la semaine prochaine.
Si tout va bien d'ailleurs, parce que Dieu sait qu'il y a eu quelques surprises de ce point de vue-là et très récemment. Merci beaucoup.
Merci
François Gémen, merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite ce soir, ça se passe en Roumanie, qui, vous le savez, préside l'Union européenne en ce moment depuis le 1er janvier, mais qui bataille avec ses propres institutions, ses pouvoirs, sa corruption. Vous verrez à quoi ça ressemble grâce à Eric Biegala et l'Escale Reportage. Ce soir, Sous les radars et Amélie Perrier avec une histoire de poste autrichienne, de friand à la saucisse britannique et de footballeuse en Afrique du Sud. Le cinéma en VO et vous, Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Avec un film allemand, ça s'appelle In My Room, signé Ulrich Köhler.
Oui, comment survivre à la fin du monde quand on est un boulet ? Formulation amusante pour un film très profond par l'une des figures du renouveau du cinéma allemand.
Et à tout à l'heure, Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et en parlant de boulet, pardon de dire comme ça, vous avez écouté Trump hier soir. Sacré discours quand on y songe, et c'est plutôt les démocrates qui sont dans le pétrin en ce moment.
C'est-à-dire sur cette histoire de mur, Trump ment comme un arracheur de dents, mais il ment délibérément avec une vraie stratégie à la clé.
Et on verra qui sort gagnant de cette affaire-là. Merci beaucoup et à tout de suite. Le tour de la planète continue. Il passe par l'Italie, figurez-vous. Tiens, Adriano Celentano, Preghiero sur France Inter.
Preghiero per te che hai la notte nel cuore. E se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo. Magia ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio e ti vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai. Solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo. Oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore.
Est sûr autour de cette table de cette version italienne de Stand By Me par Adriano Celentano.
Bon, en tout cas, on a reconnu. Hein.
Eh bien, je vais vous dire, il y a débat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier, rien à voir. La poste, c'est facteur, le messager de vos missives les plus personnelles.
Alors, vous lui faites plutôt confiance, normalement. Mmh. Les Autrichiens, eux, n'auraient peut-être pas dû.
Wenn's wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.
Quand c'est vraiment important, préférez la poste, dit ce spot de pub pour l'entreprise. Les Autrichiens viennent d'apprendre que leur poste a commercialisé des données à propos d'un peu plus du tiers de la population, 3 millions de personnes. Les noms, les âges, les adresses, et pour une majorité d'entre eux, c'est encore plus gênant, l'affinité politique présumé. Ouais, la Poste a développé un modèle pour établir le penchant politique d'une personne. Elle l'a admis, c'est une pratique courante depuis des années. Un moyen, selon elle, de limiter les envois de courriers inutiles pour les partis. Des tendances politiques achetées donc par les partis autrichiens. Une pratique légale se défend la Poste autrichienne, détenue majoritairement par l'État, et à qui cela rapporte chaque année environ 10 millions d'euros.
Au Royaume-Uni, rien à voir, on parle beaucoup d'un friand à la saucisse.
Oui, c'est la chaîne de boulangerie Greggs qui fait beaucoup parler depuis la mise en vente la semaine dernière de son vegan sausage roll, un friand à la saucisse végétarien. Alors là, c'est une émission télématinale, les deux présentateurs le goûtent. Alors la journaliste, elle trouve ça délicieux. Hein. Elle va le manger tranquillement en entier pendant toute la chronique.
The vegetarian sausage is nicely flavored.
Et là, vous entendez. Voilà, c'est son confrère qui s'étouffe à moitié et qui finit par recracher tout dans la poubelle. Alors, Greggs vend chaque année 1,5 million de feuilletés à la saucisse de porc. C'est sa spécialité. Mais une pétition signée par 20 000 clients et l'Organisation de défense des animaux PETA lui ont demandé d'en faire une version vegan. L'entreprise de boulangerie industrielle a lancé son nouveau rôle. 96 couches de pâte feuilletée légère et croustillante, nous dit Greggs, à base d'huile végétale, évidemment, et d'une garniture de cornes. C'est un substitut végétal à la viande à base de champignons, notamment. Lancement au début du mois pour relayer le veganuary. Vous savez, c'est la contraction de vegan et de janvier en anglais. Mm-hmm. Un mouvement pour laisser de côté nos protéines animales au mois de janvier. Aujourd'hui, la chaîne relève pour la deuxième fois en deux mois ses prévisions de bénéfices. Ça marche très très bien. Donc, pas forcément grâce à son virage végétarien, même s'il se vend bien dans la moitié de ses 1850 boutiques. Cet épisode lui a fait quand même une sacrée pub. En tout cas, certains éditorialistes malins ont vu dans l'intrusion de ce friand végétarien à côté du friand à la viande, une métaphore politique en plein Brexit, un message de coexistence pacifique, oui, malgré les différences, rien que ça.
Voilà, en même temps, coexistence, comme vous dites, parce que 96 couches de pâte feuilletée, ça fait quand même beaucoup de couches.
C'est un friand à la viande, ou sans viande.
Ah non, sans viande. Allez, on parlait hier, Amélie, de l'attribution de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, organisation confiée à l'Égypte. L'Égypte doublement distinguée hier, car le joueur africain de l'année, ça ne vous a pas échappé, c'est Mohamed Salah, deuxième ballon d'or africain pour lui. L'Afrique du Sud, qui était en compétition pour recevoir l'organisation de la CAN, a pu se consoler quand même hier grâce aux femmes, grâce au football féminin. Christina Tembi Katlana a été désignée à la fois meilleure joueuse de l'année, elle est récompensée aussi pour le plus beau but de l'année, homme-femme confondu, d'où la fierté de la joueuse hier en conférence de presse. Elle dit, je suis très émue que l'Afrique du Sud m'ait soutenue et qu'on ait voté pour mon but alors que j'étais en compétition face à des hommes. C'est un grand privilège de figurer dans ce palmarès. C'est un souvenir que je garderai très longtemps. Alors voilà, l'Afrique du Sud encore distinguée hier puisque c'est une compatriote de Tembi Katlana qui a été désignée meilleure entraîneur pour une équipe féminine. Elle s'appelle Désirée Ellis. Voilà nos héroïnes du jour.
Eh ben, écoutez, bravo. Merci beaucoup Amélie Perrier, sous les radars tous les jours. Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Roumanie que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. La Roumanie, vous le savez, qui depuis le 1er janvier a la présidence tournante de l'Union européenne, une présidence dont certains, et notamment le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, doute que le pays soit en mesure de l'assumer. Bonjour Éric Bégala.
Bonjour Fabienne.
Vous en revenez, Éric, de Roumanie, vous y étiez le 1er janvier. Ce qui fait peur à l'Europe, c'est l'effroyable foutoir, mais c'est comme ça que ça s'appelle, entre les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Vous allez nous expliquer tout ça.
Sibiu, ville moyenne de Transylvanie dans le centre du pays. Comme tous les jours depuis un an, un peu avant midi, entre 30 et 40 citoyens se rassemblent en face des locaux du PSD, le Parti Social-Démocrate, le parti au pouvoir. Et comme tous les jours, à midi pile, ils s'immobilisent en silence et sortent leurs pancartes face au siège du parti. On y peut lire « Vovedem, on vous voit ou on vous regarde ». À midi et quart, le carillon de la cathédrale évangélique Santa Maria, toute proche, donne le signal de la fin du piquet. Cyprien Epulash, un informaticien d'une trentaine d'années, est l'un des manifestants réguliers de ce quart d'heure silencieux et quotidien.
On sort depuis une année pour défendre l'état de droit, disons.
Qu'est-ce qui vous a le plus choqué là, dans ces 18 mois de pouvoir du PSD ?
La violence et la persévérance avec laquelle ils ont détruit les lois de la justice. C'est ça qu'on n'a jamais accepté ici, la corruption.
La corruption endémique dans le pays, c'était le travers auquel il fallait absolument mettre bon ordre pour prétendre intégrer l'Union européenne. Un parquet national anticorruption a ainsi vu le jour en 2005 et les poursuites se sont enchaînées. Maires, fonctionnaires, ministres. Et puis il y a eu le reflux, ou plutôt la contre-attaque, celle du monde politique et notamment du parti au pouvoir, le PSD. La chef du parquet national anticorruption a été d'abord démise de ses fonctions au printemps dernier et puis le gouvernement s'est attaché à de multiples réformes histoire de limiter les prérogatives des magistrats. Monica Makovei était ministre de la Justice entre 2005 et 2007. C'est elle qui a créé le parquet national anticorruption. Elle liste aujourd'hui les réformes qui plombent la lutte anticorruption, à commencer par le nouveau régime de prescription.
Elle est limitée à un an. Ça veut dire que les faits qui remontent à plus d'un an sont aujourd'hui réputés prescrits. Autre changement de la loi, cela concerne les crimes de corruption. Le nouveau texte stipule qu'il n'y a pas de crime si un pot de vin est versé par quelqu'un d'autre, un intermédiaire. Bien sûr, ils vont tous se jeter sur l'occasion. Tous ces changements ont eu lieu en 2018. Ils ont changé le code pénal, le code de procédure pénale et trois lois sur la justice. Tout ça en un an seulement.
Autre mesure prise ces derniers mois, les enquêtes sur la corruption ou les abus des magistrats eux-mêmes. Des enquêtes qui étaient jusque-là du ressort du parquet national anticorruption. Elles sont dorénavant conduites par un service du ministère public dépendant directement du ministre. Pour les procureurs, c'est une pression supplémentaire. Gabriela Scutea est procureure à Brașov. Pour elle, le parquet national anticorruption n'est pas encore totalement mort, mais on n'en est pas loin.
Il n'est pas complètement décapité, pas encore, mais il fonctionne au ralenti. Les procureurs sont un peu perdus, ils sont terrifiés par ces déclarations publiques qui ressemblent à des menaces, comme quoi tous les abus des magistrats seront dorénavant sanctionnés ou poursuivis.
Côté gouvernement, on explique effectivement cette offensive contre les procureurs de par les nombreux abus dont ceux-ci se seraient rendus coupables. Le gouvernement insiste aussi sur la collusion de ces procureurs avec les services de renseignement. Le sénateur Titus Corlațean est l'un des cadres du Parti social-démocrate.
On a vu des abus par des équipes mixtes qui ont été constituées entre les gens des services de renseignement et les procureurs, tout en donnant des compétences d'enquête judiciaire aux services de renseignement. C'est tout à fait inacceptable et c'est tout à fait non démocratique.
L'argument est étrange. Dans la plupart des pays occidentaux, procureurs ou juges d'instruction travaillent régulièrement avec des officiers de police judiciaire attachés aux services de renseignement, le FBI aux États-Unis, la DGSI en France. Cette dénonciation d'une collusion des magistrats et des agents de renseignement est d'ailleurs devenue l'ancienne favorite du président du Parti social-démocrate, Liviu Dragnea, ici devant les cadres de son parti le 16 décembre dernier.
Ces procureurs et ces officiers de renseignement ont vraiment mis fin à la dépendance de la justice.
Et bien sûr, pour Liviu Dragnea, les victimes de cette collusion, ce sont les hommes politiques, condamnés pour corruption ou, dans son cas, pour fraude électorale. Raison pour laquelle il demande aux parlementaires de voter d'urgence une loi d'amnistie.
Pourquoi, par exemple, les mots d'amnistie ou de grâce seraient-ils tabous? Moi, je n'ai pas peur de les employer, ces mots. La majorité a aussi cette obligation, réparer les injustices.
En fait, l'ordre du jour politique du gouvernement semble aujourd'hui lié au sort judiciaire de Liviu Dragnea, remarque Raluca Aplun. Cette ancienne ministre de la Justice est aujourd'hui haut fonctionnaire européen en charge à Bruxelles de la criminalité financière, justement.
C'est vrai que la priorité politique du gouvernement, c'est de régler les affaires judiciaires, pénales, principalement de M. Dragnea. Il faut dire que M. Dragnea, il était déjà condamné, ce qui fait que la Roumanie soit, à ma connaissance, unique dans l'Union européenne. Moi, je ne connais plus de politicien qui est en train d'exercer un pouvoir politique tout en étant condamné définitivement par une cour de justice.
Une seconde affaire de corruption devrait ramener Liviu Dragnea devant les tribunaux ces prochaines semaines, avec à la clé une possible condamnation à de la prison ferme cette fois, à moins que d'ici là, il ait réussi à faire entériner sa loi d'amnistie.
Éric Biagala et Paul Gauzyguian à la technique. Merci à vous deux. On y retournera demain d'ailleurs en Roumanie, je vous le dis d'ores et déjà. The Good, the Bad and the Queen, Maryland.
Still say goodbye, and if you are leaving, can you leave me my silver jubilee, my old flag, my dark woods, my sunrise? If you're leaving, can you please say goodbye? And if you are leaving, can you leave your number up at my gates and get in the cab and wave you goodbye? I drive in the early hours down to the sea. I stand on the beach where the storms are.
and carry the terrible things they've seen or lost in a painting of a sky colored oil. In this merry land, you are my crows, my window rattlers, perfume valley criers, over dark ponds of merry England, the deep space echoes. Get on your
Bad and the Queen sur France Inter. Évidemment, Corinne Pellissier, vous avez reconnu le chanteur tout de suite, mais immédiatement.
Oui, Liam Gallagher.
Damon Albarn. Damon Albarn. Ah ouais, voilà, tous ces jeunes autour de la table, c'est agaçant. 3, 2,
1, Inter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, Corinne, en voilà une question. Que feriez-vous si vous découvriez un jour, en vous réveillant, que le reste de l'humanité a disparu? On n'est pas dans Walking Dead. Au cinéma, cette semaine, c'est le quatrième film de l'allemand Ulrich Kohler. Le film s'appelle In My Room. Le thème du retour à la nature, de l'autosuffisance absolue, vous allez nous raconter ça. Le héros, il s'appelle Armin. Il est caméraman. Il est donc obligé, du jour au lendemain, de s'inventer une nouvelle vie. Et c'est pas facile parce que c'est un peu un gros boulet quand même, le garçon. C'est un film qui a aussi beaucoup d'humour. Bande annonce d'abord.
Ich finde gut, dass du sie nicht ins Krankenhaus gebracht hast.
Sta fermo, fermo! Don't move!
Alors on va entrer dans le vif de l'histoire, évidemment. Un petit mot, Corinne, d'abord sur Ulrich Kohler, sa vie, son œuvre. Pourquoi c'est un cinéaste qu'il faut suivre?
Ulrich Kohler, c'est le mari de Marraine 2, la réalisatrice de ce film, Tony Erdmann, qui nous avait tellement marqué à Cannes il y a 2 ans avec l'histoire de ce père un peu fantasque qui essaie par tous les moyens de retrouver l'amour de sa fille. Les deux cinéastes font partie de ce qu'on a appelé au début des années 2000 l'école de Berlin, la nouvelle vague moderniste du cinéma allemand. Des personnages souvent solitaires, cabossés, très ancrés dans la réalité, mais toujours avec beaucoup d'humour. Ici, c'est le personnage d'Armin, pas méchant, mais dans sa bulle, un peu auto-centré, un peu loser. Tout ce qu'il entreprend en général tourne au fiasco, que ce soit dans son boulot ou dans sa vie personnelle. C'est le genre de garçon qui va toujours vous gratter 50 centimes à la machine à café. Ses reportages sont un désastre, les plans sont de travers, les rushs mal montés. C'est pas qu'ils sont fous, mais bon, voilà, c'est comme ça. Avec les filles, c'est pareil, un peu négligent, un peu goujat sur les bords. Il drague les filles de ses copines en boîte de nuit parce que c'est plus facile. Ses rapports aussi avec ses parents sont exécrables. Voilà, on arrête le tableau. Tout ça, c'est la vie d'Armin avant que l'histoire ne bascule et que le monde ne disparaisse. Il va se réveiller un lendemain de cuite dans sa voiture et se retrouver tout seul. Comment va-t-il réagir, se comporter? C'est toute la question qu'Ulrich Kohler a voulu creuser. Notre capacité à rebondir lorsqu'autour de nous, il n'y a plus rien et que nous sommes enfin libres.
La liberté, de toute façon, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a encore liberté au moment où il n'y a plus de limites? Donc, dans la vie quotidienne, la liberté personnelle, on définit surtout par les choses qu'on veut plus faire, on veut plus payer des taxes, on veut pouvoir changer d'appart, on veut changer de vie, on veut changer de famille, changer de femme, changer de monde. Mais du coup, quand il n'y a plus d'obligations, on se rend compte qu'il faut se devenir soi-même et il faut trouver des choses positives par lesquelles on peut se définir. Pour moi, le film n'était pas vraiment lié au réel danger que l'humanité soit extincte avec tous les dangers que l'humanité court. C'est plutôt vraiment un questionnement sur la constitution sociale de l'homme et la façon dont on a besoin de l'autre pour se définir soi-même et qu'est-ce qui se passe si l'autre n'est plus là. C'était un peu une idée romantique que j'avais quand j'étais jeune et je me suis rendu compte que moi je suis complètement aux côtés du social et que j'ai vraiment besoin des autres, que je ne suis pas du tout la personne que je croyais être quand j'avais 15 ans ou 16 ans.
Alors donc le voilà tout seul, il n'y a personne d'autre comme une pauvrette. Son attitude est assez étonnante parce que il y en a certains qui paniqueraient, j'imagine, comme Jean-Marc Four par exemple, peut-être même que d'autres qui se flingueraient. Lui s'adapte pour se transformer en une sorte de Robinson des temps modernes.
Oui, alors ce n'est pas que la question ne lui ait pas traversé l'esprit, hein, mais effectivement il va se prendre en charge, apprendre à coudre, à travailler, monter à cheval, tout reprendre à zéro. C'est un film qui part de notre capacité à nous réinventer dans une société où on est tout seul. Ce qui est très réussi, eh bien c'est le silence, très peu de dialogue, très peu de musique en dehors d'une scène de ballet sublime sur de la musique techno. Pas de narrateur non plus, juste Armin et son nouveau rapport au monde. Il n'aimait rien, il va devoir apprendre à se définir autrement. Tout ça n'est finalement qu'une question de choix. Et c'est un film qui est rempli de questions existentielles. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Que voulons-nous? Ulrich Köhler a mis beaucoup de ses questionnements, de ses fantasmes d'adolescent dans ce film. Il n'apporte pas forcément de réponse, mais propose une lecture assez poétique de ce que pourrait être la vie après l'apocalypse. Le tout avec beaucoup d'humour.
Ça s'appelle In My Room, signé Ulrich Köhler, un film allemand, donc c'est au cinéma cette semaine. Merci beaucoup Corinne Pellissier.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Donald Trump n'en démord pas, Jean-Marc. La nuit dernière, il est donc intervenu à la télé pour maintenir son exigence de voir le fameux mur construit entre le Mexique et les États-Unis. Le blocage budgétaire qui en découle avec l'opposition démocrate persiste. Et pour vous, c'est un peu trop facile de dire que Trump raconte n'importe quoi sur le sujet. Et c'est votre monde à l'envers.
Oui, à chaque fois avec Trump, on est tenté d'entonner le même refrain. Trump ment, c'est le grand n'importe quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Et le problème, c'est que ce type de verdict assez définitif empêche en réalité de réfléchir. Le truc, c'est que Trump ment, c'est vrai, mais il ne dit pas n'importe quoi pour autant et ça fait une grande différence, vous allez comprendre. Oui, les arguments que lui ou ses proches avancent pour défendre la construction de ce mur sont quasiment tous des mensonges. Voici les quatre principaux. 1. Le mur mettra fin à l'immigration illégale. Faux, la majorité des 10 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis sont entrés légalement sur le sol américain, c'est juste qu'ils sont restés après l'expiration de leur visa. 2. Le mur permettra d'empêcher l'entrée des délinquants. Faux, le taux de délinquance chez les immigrés aux États-Unis est inférieur à la moyenne nationale. 3. Le mur empêchera l'accès des terroristes. Encore faux, l'immense majorité des profils suspects arrivent par avion dans les aéroports. En 6 mois, seulement 6 personnes arrêtées à la frontière mexicaine, ce qui est dérisoire. 4. Le mur permettra de combattre le trafic de drogue. Encore faux, la drogue entre aux États-Unis par des points d'entrée tout à fait légaux, pas dans les baluchons des réfugiés. Donc oui, Trump ment, le mur ne résoudra aucun de ses problèmes, mais il ment délibérément parce que l'objectif est ailleurs.
Et donc c'est en ça qu'il dit pas vraiment n'importe quoi.
Exactement, c'est de la tactique politique. Comme souvent dans l'histoire d'ailleurs, quand il s'agit de construire un mur, le but c'est surtout le symbole, la com, apparaître comme le protecteur, le tough guy, hein, comme on dit en américain. Le mur c'est le totem, c'est le fétiche, c'est pas le bénéfice matériel, le résultat concret sur la sécurité qui compte. C'est le bénéfice immatériel, le symbole de l'homme fort avec un sujet simple, clivant, pour ou contre le mur, je suis le bon, vous êtes les méchants. Deuxième enjeu tactique, classique chez Trump, respecter une promesse électorale, satisfaire son électorat, quitte à se mettre à dos les fonctionnaires fédéraux victimes du blocage budgétaire. Peu importe, en grande majorité, ceux-là, ils ne votent pas pour lui. Enfin, troisième enjeu tactique, tendre un piège aux démocrates, parce que le sujet est embarrassant pour l'opposition. Pourquoi ? Et de une, on l'oublie un peu vite, les démocrates sont en partie responsables de la construction déjà engagée de ce mur sur plus de 1000 km. Et accessoirement, il n'y a jamais eu autant d'expulsions d'immigrés illégaux que sous Barack Obama. Et de deux, les démocrates courent le risque d'apparaître comme les responsables de ce fameux shutdown. Vous me direz, Trump court le même risque, mais c'est donc une partie de poker, et au poker, il ne faut pas sous-estimer Trump.
Sauf que tout ça, c'est quand même du calcul tactique à la petite semaine.
Oui, d'accord, c'est de la tactique, mais la politique, hein, c'est souvent ça. Mais surtout, c'est pas que de la tactique. Il y a aussi à l'œuvre, dans cette histoire de mur, quelque chose de plus essentiel, de plus stratégique, quelque chose qui reflète le fond de la pensée de Donald Trump. C'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux. C'est quoi ? C'est le choix délibéré du repli sur soi. Arrêtons-nous sur ce qu'est un mur. La version officielle évidente, c'est le mur nous protège, nous, d'une menace extérieure. Mais on peut le regarder dans l'autre sens. Le mur enferme les personnes qu'il est censé protéger. C'est souvent le cas dans l'histoire. Par exemple, l'exemple type, c'est le mur de Berlin. Et soit dit en passant, on aura le droit de se poser la même question sur le mur marin que l'Europe bâtit en Méditerranée contre les migrants, mais là, je digresse. Bref, le mur, c'est aussi l'isolement de ceux qui sont réputés être du bon côté du mur. Vous me suivez? Et c'est exactement la vision du monde de Trump. Le repli sur soi des États-Unis, le désengagement géopolitique, cesser d'être le gendarme du monde, se retirer du Moyen-Orient, voire de l'OTAN ou de l'OMC. Le mur, c'est restons chez nous, replions-nous sur nous-mêmes, dans la prison que nous avons construite nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc non, Trump ne dit pas n'importe quoi. Au contraire, et c'est pour ça que le mur est un symbole clé assumé dans sa pensée politique.
Les prisons, comme vous y allez en effet, puisque le mur pourrait bien être des barreaux, d'ailleurs, à terme.
Tout est dit.
Et le monde à l'envers. Merci beaucoup, on reste ensemble, nous, pour le téléphone sonne. Merci de nous écouter.